Vous écoutez On lit pour vous.
Suzanne Loisel et Marie-Paul Lebel, Aînés aux barricades, un texte de Noémie Mercier, paru en automne 2023 dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité. À leur âge, elles auraient bien mérité de se reposer. Tout le monde aurait compris qu'elles déposent les armes devant l'investisseur immobilier qui a racheté leur résidence privée pour aînés, RPA, au centre-ville de Montréal et qui s'est appliqué à démanteler leur milieu de vie. Mais Marie-Paul Lebel et Suzanne Loisel, deux religieuses octogénaires qui ont passé leur existence à lutter pour la justice sociale, sont d'un autre bois. Face aux puissants qui voudraient les faire plier, elles ne cèdent pas, elles se lèvent. Membres d'une congrégation anticonformiste, les sœurs auxiliatrices, elles ont défendu les droits des ex-détenus et des assistés sociaux, baignées dans le mouvement ouvrier, pris part aux grandes marches des femmes, contesté le patriarcat dans l'Église. On a cette passion dans les tripes qui fait que lorsqu'il y a une injustice quelque part, note Marie-Paul, on ne peut pas laisser passer ça. Cette fois, la lutte s'est invitée dans leur intimité. Depuis 2 ans, elles se battent bec et ongles pour préserver leur chez-soi, la résidence Mont-Carmel, qui abritait auparavant presque 200 personnes âgées dans de petits logements abordables. Une tour vieillotte où il faisait bon vivre jusqu'à ce qu'un jeune homme aux poches profondes, Henri Zavriev, s'emporte acquéreur et entreprenne de la convertir en immeuble locatif ordinaire sans service adapté aux aînés. L'infirmière, la réceptionniste, le système d'appel d'urgence dans les appartements, tout cela était voué à disparaître. Les logements vacants seraient retapés et reloués plus cher à de nouveaux locataires. On a perdu la quiétude, on a perdu une maison organisée avec un personnel attentif, on a perdu notre chez-nous. Résume Suzanne. Près de la moitié des aînés ont préféré quitter Mont-Carmel plutôt que d'endurer la dégradation de leur environnement. Au fil des mois, la nouvelle administration a interdit l'accès aux salles de loisirs, négligé l'entretien, laissé en chantier des couloirs délabrés. Le va-et-vient de fêtards et d'itinérants sur les étages a atteint de telles proportions que les appels des résidents à la police sont devenus coutumiers. Privés d'endroits pour se réunir, se divertir ou prier, maintenus dans un état de qui-vive, bien des locataires ont senti leur santé s'étioler. Plus d'un a sombré au point de concevoir des idées suicidaires. Mais Suzanne, Marie-Paul et leurs alliés s'accrochent. Révélée au grand public à l'émission « Tout le monde en parle » et dans le documentaire « Évincé, les aînés contre-attaque » que j'ai co-réalisé, les deux femmes ont réussi à sensibiliser la population à une question qui dépasse leur propre situation, le droit bafoué des personnes âgées à un toit convenable. Avec 5 autres résidents, elles ont formé un comité qui se démène pour contrecarrer les plans du proprio. L'escouade talonne les élus, rédige des lettres ouvertes et des mémoires, recueille des fonds, alerte les inspecteurs, les pompiers et le CIUS, en plus de veiller au moral des troupes. Sur les quelques 80 aînés qui n'ont toujours pas renoncé à leur appartement, une 50aine ont choisi de monter aux barricades unis derrière le comité. Ça nous a tellement rapprochés, observe Suzanne. On n'a plus de milieu de vie mais on a une communauté de résistance assez spectaculaire. Ensemble, ces irréductibles ont intenté 3 poursuites judiciaires contre le propriétaire. Ils lui réclament notamment des dommages-intérêts pour le harcèlement, la violation de leurs droits fondamentaux, ainsi que le stress et les troubles qu'ils affirment avoir subis. Henri Zavriev a été forcé de conserver la vocation de RPA du bâtiment en vertu d'une ordonnance de sauvegarde émise par la Cour, qu'il s'est engagé à respecter jusqu'à ce qu'un juge décide du sort de la résidence. Reste que la vie à Mont-Carmel n'est plus l'ombre de ce qu'elle était. Certains services ont été maintenus, mais réduits au minimum. Une seule salle commune leur a été rendue, par exemple. D'autres, comme le système d'interphone, n'ont jamais été rétablis. Si Marie-Paul et Suzanne persistent, affirme-t-elle, c'est pour toutes les personnes âgées qui se voient forcées de se reloger au crépuscule de leur vie. Environ 500 RPA ont fermé leurs portes au Québec depuis 5 ans. Une hécatombe. Aux yeux de la loi, convertir une RPA en immeuble locatif est un simple changement d'affectation qui donne aux propriétaires le droit d'évincer ses locataires, sauf, à de rares exceptions, un processus qui n'est pas suffisamment encadré par l'État, selon Suzanne Loisel. On ne se bat pas pour notre bail, dit-elle. On se bat pour une législation qui protège le droit des aînés à la sécurité et à la jouissance d'un lieu paisible. C'était Suzanne Loisel et Marie-Paul Lebel, aînés aux barricades, un texte de Noémie Mercier, paru en automne 2023 dans l'édition janvier-février 2024 du magazine L'Actualité.
Comme des lunettes déformantes, un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 4 mars 2024 dans la presse. Il teinte notre vision du monde et de l'actualité, dicte nos actions en douce et permet aux politiciens et groupes de pression de mieux nous influencer. Ces ratés du cerveau, appelés biais cognitifs, ont été identifiés par dizaines. On lève le voile sur certains des plus troublants d'entre eux et montre comment atténuer leur emprise. Émilie Gagnon-Saint-Pierre et Chloé Graton n'étudient pas l'astrophysique dans leur laboratoire, ni la génétique ou la biologie moléculaire, mais leurs interlocuteurs se montrent parfois ébahis lorsqu'elles relatent leurs recherches. Depuis 5 ans, les deux doctorantes en psychologie cognitive se passionnent pour les biais. Ces raccourcis de pensée automatiques et involontaires qui brouillent notre perception de la réalité, nos choix et notre jugement, et peuvent ainsi avoir de lourdes répercussions, erreurs, conflits, injustices, radicalisation. N'importe qui, un enseignant, un médecin, un juge, un employeur, peut être victime de biais sans s'en rendre compte. Ils peuvent influencer nos décisions et nos gestes dans tous les domaines, prévient Émilie Gagnon-Saint-Pierre, affiliée au Laboratoire des processus de raisonnement de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Vu leur impact, les connaître est très important. Ils sont omniprésents et bien ancrés. Plein d'études permettent de les mesurer et de les prédire, mais on a réalisé que les gens autour de nous ne le savent pas et que beaucoup trouvent même ça difficile à croire. S'estimer objectif ou plus objectif qu'autrui est un mirage si répandu qu'il porte son propre nom, biais d'angle mort. Il démontre que des œillères empêchent bon nombre d'entre nous d'interpréter la réalité de manière impartiale et rationnelle, et que l'humilité intellectuelle est de mise. Les gens pensent « Je ne peux pas avoir fait de la discrimination puisque je veux que les choses soient équitables. » Mais c'est un mythe très dommageable. ça revient à déclarer « Je ne peux pas tomber malade parce que j'ai un bon système immunitaire. » On doit absolument prendre conscience des limites de notre cerveau. Ça devrait faire partie de l'enseignement de base. Nos préjugés sont inconscients, souligne Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Une solution clé en main. Pour ouvrir la voie, Émilie Gagnon-Saint-Pierre et Chloé Graton ont lancé, en 2020, un guide pratique des biais cognitifs gratuit, vulgarisé et bilingue qu'elles ont baptisé « Raccourci 1 ». Une trentaine de spécialistes en psychologie, en philosophie et en neurosciences y ont collaboré avec enthousiasme à partir du Canada et de la France. On nageait alors en pleine pandémie. Les théories du complot abondaient et le guide a vite attiré l'attention. Les gens du public ressentaient le besoin de comprendre comment des proches ou des connaissances pouvaient analyser des informations identiques de façon complètement différente d'eux, dit Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Comment notre cerveau, si puissant, peut-il s'avérer si traître? La réponse est simple. Au début de l'humanité, les raccourcis de pensée se révélaient utiles, parfois même cruciaux, car les premiers humains devaient réagir rapidement face aux dangers. Réaliser des déductions hâtives basées sur d'infimes indices a assuré leur survie. Et faire preuve de partialité les a aidés à tisser des liens et à unir leurs forces. Encore de nos jours, analyser chaque information serait souvent beaucoup trop long et énergivore. Emprunter des raccourcis est une faculté extraordinaire qui nous permet d'être efficaces. C'est comme une solution clé en main, résume Émilie Gagnon-Saint-Pierre. De grands besoins à assouvir. Bien que commodes, les raccourcis de pensée sont loin d'être infaillibles. De nombreuses situations exigent une réflexion plus approfondie et détachée. L'urgence, le manque d'informations, certains traits de personnalité et les émotions fortes nous en détournent, indique Madame Gagnon-Saint-Pierre. Mais ces pièges n'ont pas un impact identique en toutes circonstances, et différents biais affectent différents êtres. Une personne déprimée sera, par exemple, moins susceptible de surestimer ses capacités. Mais sa vision risque d'être déformée dans l'autre sens. Dans bien des cas, notre cerveau nous dupe surtout pour assouvir des besoins fondamentaux. Penser, si je réussis, c'est grâce à moi, mais si j'échoue, ce n'est pas ma faute, préserve notre estime de soi, illustre Émilie Gagnon-Saint-Pierre, pour décrire le biais de complaisance. Certains blâment aussi les victimes aux prises avec des malheurs horribles. Ils se disent que chacun reçoit ce qu'il mérite, parce que penser que ça peut arriver à n'importe qui et qu'on n'a aucun contrôle est trop insécurisant, souligne Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Les victimes d'agressions sexuelles sont fréquemment malmenées par ce biais appelé « illusion du monde juste » qui provoque, par exemple, des commentaires insensibles au sujet de leur habillement lors du drame. L'intolérance à l'incertitude et à l'ambiguïté nous nuit aussi, ajoute Chloé Graton. On préfère souvent prendre des décisions approximatives alors qu'on devrait idéalement suspendre son jugement parce qu'on est pressé de régler la situation, d'arriver au dénouement. Être laissé entre deux provoque de l'anxiété. L'humain a besoin de fermeture cognitive. Les informations incompatibles avec nos convictions et nos actions génèrent aussi un inconfort majeur qui nous pousse à ignorer, oublier ou considérer comme peu crédible ce qui nous dérange. Alors que nous nous empressons de lire et de retenir tout ce qui conforte nos idées. Ce genre de réflexe alimente des dialogues de sourds et cause d'innombrables clivages et blocages politiques. D'autres biais préservent plutôt notre tranquillité en nous gardant dans l'inaction. comme le dénonce le film « Don't Look Up » avec ses personnages qui préfèrent tout croire, sauf l'annonce de la destruction imminente de la Terre par une gigantesque comète, symbole hollywoodien des changements climatiques. Une responsabilité collective. Sommes-nous donc condamnés à nous montrer déraisonnables? L'éducation peut généralement réduire le risque d'être biaisé, mais on ignore si c'est vrai pour tout et dans tous les contextes, affirme Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Le sujet semble en tout cas très populaire en librairie, où les titres se multiplient. Votre cerveau vous mène en bateau. Pourquoi votre cerveau n'en fait qu'à sa tête? Votre cerveau vous joue des tours. Méfiez-vous de votre cerveau. Vous allez commettre une terrible erreur, etc. Connaître nos vulnérabilités ne nous empêche pas toujours d'y succomber, affirme toutefois Mme Gagnon-Saint-Pierre. C'est pourquoi les scientifiques érigent des remparts pour éviter que leur cerveau les trompe. Lors des essais dits « en double aveugle », ils ignorent, tout comme les patients qui reçoivent un placebo plutôt que le médicament testé. Sans quoi, leurs attentes risqueraient de fausser les conclusions. Les deux éditrices du guide des biais cognitifs souhaitent que d'autres milieux imaginent ou renforcent leur propre filet de sécurité intellectuelle. Puisqu'on ne se rend pas compte de nos erreurs, on a besoin de systèmes externes pour nous protéger et changer les pratiques, plaide Mme Gagnon-Saint-Pierre. Ça ne peut pas être une responsabilité individuelle. C'était « Comme des lunettes déformantes », un texte de Marie-Claude Malbeuf paru le 4 mars 2024 dans la presse.
Chez nous, un texte de Maxime Pedneau-Jobin paru le 18 janvier 2024 dans la presse. Citation. Pour arriver au moulin de Buckingham, il faut débloquer la jam qui se rebloque un peu plus loin. Fin de citation. La drave de Félix Leclerc. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière, cette fois à l'épicerie. Citation. Monsieur Jobin, ça fait plaisir de vous voir, mais vous habitez encore à Buckingham? Fin de citation. Et moi de répondre. Évidemment. C'est probablement l'effet combiné d'écrire pour la presse et de collaborer à RDI. Ça fait Montréal. Les gens pensent donc que j'y habite. Il y a aussi le fait que je fais ville à part avec mon épouse depuis maintenant 23 ans. Elle habite à Montréal et moi à Gatineau. Certains s'attendaient à ce que j'aille la rejoindre après la politique municipale. Mais non, Buckingham, c'est chez moi. Bizarrement, c'est en Mongolie, il y a près de 30 ans, que j'ai décidé de faire ma vie dans la ville où je suis née. Parenthèse, Buckingham est maintenant un quartier de Gatineau. Fin de parenthèse. Après la défaite référendaire de 1995, j'ai voyagé en Asie pendant 2 ans, histoire de changer le mal de place. En Mongolie, j'ai marché seule le long d'une rivière pendant 1 mois. C'était toute une expérience, notamment de solitude. La Mongolie a la plus faible densité de population au monde, 3 fois moins élevée que celle du Québec. Quand on sort de la capitale, il n'y a presque personne. En 1 mois, j'ai assez peu parlé et beaucoup réfléchi. J'ai marché le long de la rivière Orkhon sur près de 400 kilomètres jusqu'à Karakorum, la capitale de Gengis Khan. Tous les midis, je m'éloignais de la rivière, je gravissais le point le plus haut des environs et je dînais en regardant le paysage. Un jour, du haut de mon poste d'observation, j'ai vu une gère, l'habitation traditionnelle des Mongols que les Russes appellent yourte. Il y avait 7 tentes, quelques animaux, 2 enfants. Ce n'était évidemment pas la première gère que je voyais, mais celle-là m'a marquée. Elle était située, de mon point de vue, au milieu de nulle part. Pas un voisin à l'horizon, presque pas d'arbres, un petit bosquet ici et là. La rivière, des collines et de l'herbe à perte de vue. Le sentiment puissant qui m'a envahi était que cette famille, pour choisir de vivre là aussi isolée, devait se sentir profondément et absolument chez elle. Elle n'était pas nulle part. Cette famille était sur son territoire, un territoire arpenté par ses ancêtres, un territoire où probablement chaque colline, chaque vallon, chaque ravin avait une signification, rappelait un souvenir, évoquait une époque. Ces gens-là étaient là parce qu'ils aimaient leur terre, si désertique soit-elle, si isolée soit-il. Je ne m'étais jamais demandé si j'avais, moi, un tel amour pour une terre. J'aimais le Québec, oui, mais c'est l'amour d'une nation, l'amour d'un groupe qui a beaucoup à offrir au monde. Et puis j'ai eu une illumination, comme si une pensée qui avait toujours existé en moi apparaissait tout à coup dans ma tête. J'avais beau avoir voyagé, avoir habité à plusieurs endroits, au Québec et ailleurs, chez nous, c'était la vallée de la Lièvre. C'est là que je ferai ma vie. La Lièvre? La rivière du Lièvre prend sa source dans le lac Nimiskachingue, à quelques 130 km à l'ouest de la Tuque. Après une course de plus de 300 km, elle se jette dans la rivière des Outaouais, à l'est de Gatineau. Si vous voulez en voir des images, je vous invite à investir 20 petites minutes pour regarder l'extraordinaire court-métrage de Raymond Garceau, « La Drave ». La narration est de Félix Leclerc. Il y chante aussi sa célèbre chanson portant le même nom que le film. La Lièvre est aussi une des rivières parcourues par le grand Joe Monferrand. Ma mère et mon père sont nés dans la vallée de la Lièvre. J'y ai grandi, j'y ai appris à aimer les gens et la nature. Même quand mes parents ont déménagé en Montérégie, puis à Montréal, nous revenions tous les ans faire la traditionnelle tournée du jour de l'an, la tournée des oncles et des tantes habitant dans la vallée. Notre vallée est comme celle de cette famille isolée au fond de la Mongolie. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la nôtre. C'est la mienne. J'y habite depuis mon retour d'Asie. Je vous écris tout cela parce qu'au moment où l'on me questionnait, j'étais devant une employée de l'épicerie, une personne issue de l'immigration, une réalité assez récente à Buckingham. Mes liens avec notre vallée me donnent beaucoup de bonheur et je souhaite qu'elle en donne autant aux nouveaux arrivants. Quand ce sera le cas, nous serons tous des fils et des filles de la Lièvre, car ce ne sont pas les racines qui comptent, mais l'enracinement. C'était, chez nous, un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 18 janvier 2024 dans la presse.
Où en sommes-nous au chapitre du populisme de droite au Québec? Par Stéphanie Auger-Caron, étudiante en la maîtrise en sociologie, et Frédéric Guillaume Dufour, professeur titulaire en sociologie à l'UQAM. Depuis l'élection de Donald Trump et le référendum sur le Brexit en 2016, le populisme de droite est un sujet de discussion croissant. Le Canada et le Québec sont-ils à l'abri de cette tendance, comme le croyaient certains commentateurs il y a une dizaine d'années? Plusieurs en doutent aujourd'hui. Bien que le pays n'ait pas encore vu émerger de partis de droite radicale comme on en trouve en Europe et ailleurs, l'épidémie de COVID-19 a accentué un discours et un style populiste bien campé à droite. Les divers convois de camionneurs et des personnalités politiques comme Éric Duhem et Maxime Bernier incarnent cette tendance. Dans sa plus simple expression, le populisme est une idéologie et un style politique caractérisé par une opposition entre un peuple moralement pur et une élite perçue comme corrompue. Au cœur du populisme réside une délégitimation des élites politiques, économiques ou culturelles présentées à travers un discours moralisant. Cette rhétorique anti-élite s'accompagne d'une forme d'opposition au contre-pouvoir institué par la démocratie libérale. En désignant adversaires et institutions comme corrompus, les populistes se proclament les représentants légitimes de la volonté du peuple. Ce discours sous-entend que le peuple est unifié et possède une volonté unique ne pouvant être représentée que par le leader populiste. la délégitimation des médias, des partis politiques traditionnels, des scientifiques et des experts alimente une crise de confiance envers les institutions garantes de la modération et de l'équilibre des pouvoirs au sein des démocraties libérales. À droite du spectre politique, la droite radicale n'a pas seulement recours au populisme, mais aussi à des positions nationales populistes et autoritaires. On le voit particulièrement en Europe, par exemple, où des formations politiques dépeignent l'immigration comme une menace au mode de vie occidental. Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, utilise des stratégies similaires. Le Canada, avec ses politiques multiculturelles, est perçu comme tolérant et progressiste, donnant la fausse impression que la population n'est pas réceptive à ce type de discours. Cependant, les débats sur l'immigration, l'environnement et les droits des minorités divisent. Des sondages révèlent que de nombreux Canadiens souhaitent maintenant que les immigrants s'intègrent davantage et délaissent certaines pratiques culturelles. Sous couvert d'un discours nationaliste, la droite radicale véhicule l'idée que les politiques économiques et sociales devraient être réservées à un seul groupe ethno-national. Selon eux, l'argent des Canadiens est dépensé au détriment de la population pour aider des groupes extérieurs. Le populisme déplace et réarticule les limites d'appartenance au groupe national pour exclure ceux qui ne répondent pas à leurs critères. Au Québec, le Parti conservateur du Québec, PCQ, a connu une ascension pendant la pandémie de COVID-19. Exploitant les incertitudes et les mécontentements de la population, Éric Duhaime a adopté une position anti-expert et anti-élite, se positionnant comme seule opposition au gouvernement et aux mesures sanitaires. Le PCQ s'aligne également sur le libertarianisme économique, défendant l'application des principes du marché à la gestion publique. Cette orientation s'aligne souvent sur les critiques des populistes des mesures gouvernementales interventionnistes. Jusqu'à présent, peu des stratégies employées par les opposants du populisme sont parvenues à freiner sa progression. Tenter de tenir les populistes à l'écart du débat politique a généralement comme effet de renforcer leur vision du monde et la cohésion de leur mouvement. Cette avenue est probablement la plus contre-productive qui soit lorsqu'on cherche à redonner aux populistes une confiance dans les institutions qu'ils accusent de ne pas parler pour eux. C'était « Où en sommes-nous au chapitre du populisme de droite au Québec? » Un texte de Stéphanie Auger-Caron et Frédéric Guillaume Dufour, paru dans le magazine Reflet de mars 2024, volume 40, numéro 3.